ça fait partie des questions qu'il faut se poser sur l'Église. Est-ce que l'Église de Rome, c'était une seule Église qui se réunissait dans une maison, ou est-ce que c'est plusieurs autres Églises ? Alors le verset 5 nous dit effectivement que Priscille et Aquila s'accueillent l'Église dans leur maison. Il est dit au verset 10, saluez aussi les gens de la maison d'Aristobule et Hérodion qui fait partie du même peuple que moi, saluez les gens de la maison de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Et en fait, cette expression, les gens de la maison d'eux, ça inclut justement les gens qui se réunissent dans une maison pour former ce qu'on appellerait une communauté de croyants. Donc, il apparaît au premier abord qu'il n'y a pas juste une seule église, mais qu'il y aurait plusieurs maisons qui accueilleraient des croyants tous ensemble. Donc, il ne faut pas être gêné par ça, parce que des fois on est un peu étonné et on s'imagine qu'au premier siècle, ou même des fois au deuxième siècle, ben, les croyants ils étaient tous dans un seul endroit, un seul lieu qui était une maison. Mais si on réfléchit au nombre de croyants qui existaient à cette époque-là, c'était quand même très très difficile de trouver une seule maison qui puisse accueillir tous les croyants. Songez notamment à ce qui s'est passé à Jérusalem quand l'Église a commencé. C'était sans doute assez difficile de trouver une maison assez grande pour que tous les chrétiens de Jérusalem soient tous ensemble au même endroit, à un même lieu. On sait d'ailleurs que de toute façon, ils vont plutôt s'installer en dehors de la ville et qu'ils vont vivre tous ensemble en mettant en commun leurs biens. Mais du coup, d'après ce que dit Paul ici, il y a effectivement plusieurs églises, plusieurs groupes de chrétiens qui se retrouvent les uns les autres. Et il ne faudrait pas être gêné parce que Paul parle seulement de l'église quand il parle de Prisca et de Aquilas, et puis se dire après, mais après il ne parle plus d'église, il dit les gens de la maison d'eux, etc. C'est des variations stylistiques que fait Paul aussi, pour ne pas toujours dire l'église qui est à tel endroit, l'église qui est à tel endroit, etc. Donc Paul change parfois la manière qu'il a de dire les choses, mais Paul montre bien ici qu'il y a des chrétiens qui se retrouvent dans plusieurs maisons. Donc effectivement, la question d'Alexandre était très bien et très pertinente, parce que ça fait partie des choses à savoir de l'Église du 1er, 2e, 3e siècle, c'est que tous les chrétiens ne se réunissaient pas dans un seul et même lieu forcément, mais que dans les villes où il y a beaucoup de chrétiens, on avait besoin qu'il y ait plusieurs lieux qui pouvaient accueillir les gens. Quand j'avais fait ce cours sur l'Épître aux Romains à l'Institut biblique, notre prof nous avait donné un plan d'une maison typique romaine qui ressemblait à la maison de Gaius. Alors, je ne l'ai pas fait plus grand parce que ça ne rendait pas très bien vu que la qualité n'était pas exceptionnelle au départ. Mais c'est ce type de maison. Et on considère, d'après ce qu'on a retrouvé, que c'était des maisons qui étaient très grandes. Donc, c'est typiquement le genre de maison que Gaius devait posséder, donc celui chez qui Paul est quand il rédige sa lettre. Et il y avait notamment des salles qui étaient sans doute utilisées pour se réunir, qui pouvaient contenir de 70 à 100 personnes à peu près. Donc je pense une salle qui fait à peu près la taille de notre salle de culte ici, sachant que ça faisait partie des pièces qui étaient les plus petites. Donc je vous laisse imaginer les plus grandes. Et on considérait que la surface au sol d'une maison comme ça était à peu près de 1 500 m² et que les étages permettaient de couvrir une surface d'à peu près 2 000 m². Donc, il y avait quand même la possibilité d'avoir d'assez grosses communautés qui se réunissaient les uns les autres. Donc oui, il y avait plusieurs églises, effectivement. Les grosses communautés étaient obligées, du coup, d'être divisées en communautés qui étaient plus petites. Je dirais aussi que d'un point de vue, c'est pas le texte qui le dit, mais en réfléchissant un peu aussi, c'est sans doute, il y a aussi sans doute des bénéfices à ne pas avoir forcément que des très grosses communautés, parce que aussi pour l'enseignement, pour le suivi, etc., d'avoir des groupes plus réduits, ça permet quand même de mieux se connaître, de mieux se visiter, de mieux parler ensemble, etc. Parce que si on est... Alors je ne condamne pas les grandes églises qui ont plusieurs milliers de personnes, mais je pense qu'une force aussi d'avoir des groupes restreints, c'est que ça permet de mieux se connaître, de mieux se parler et de pouvoir aussi s'enseigner, entre guillemets, mieux. Parce que si on est 2000 à vouloir chacun donner son avis, c'est très compliqué. Et du coup, des petits groupes favorisent aussi ce genre de choses, même s'il y a des très grandes églises qui font du très bon travail avec leur groupe de maison. Alors ça, c'est juste un petit peu de connaissance un peu textuelle. C'est pas très grave si jamais vous retenez pas ces choses-là. Mais le mot grec qui a été traduit en français par « église », c'est le mot « ecclésia » qui veut dire littéralement « une assemblée, un rassemblement de personnes ». Et dans la version grecque de l'Ancien Testament, quand le Seigneur appelle les Israélites à venir pour les fêtes, ben on dit que c'est l'appel au rassemblement de l'Ecclésia d'Israël, donc de la communauté de l'Assemblée d'Israël. Donc c'est le même mot qui est repris, et c'est la même idée, et c'est notre langage, nous en français, qui a repris le mot église, mais on pourrait aussi utiliser le mot assemblée. Et du coup, ben c'est pas gênant aussi de voir qu'il peut y avoir plusieurs groupes différents dans une même ville, parce que c'est des groupes qui sont finalement chacun une assemblée, des gens qui se retrouvent et qui sont ensemble. Une chose qui était toute simple, mais c'était peut-être tellement simple que vous n'y avez pas pensé, et ça arrive souvent, ça m'arrivait des fois dans mes examens de doctrine, on me posait des questions, mais que je trouvais ça trop simple comme réponse, du coup je ne trouvais pas les réponses. Il y a des hommes, des femmes et des couples dans l'Église. Et c'est important aussi de le noter, parce que Paul a noté plein de personnes, il a parlé de plein de gens différents. Alors il y a quelques couples, il n'y en a pas énormément qui sont cités ici, mais il parle de Priscille et de Aquilas au verset 3, il parle d'Andronicus et de Junia au verset 7, et de Philologue et de Julie au verset 15. Donc on voit que dans ces églises, il y a des couples en particulier que Paul a nommés, qui ont fait des choses particulières pour l'église, voire même pour lui. Après, il y a des femmes, il y a Phébé, Marie, Tryphène et Tryphose, Perside, la mère de Rufus et Olympas, la sœur de Néré. Et on voit qu'il y a aussi des hommes, il y a Épainette, Ampliatus, Urbain, Eustachis, Apelles, Aristobule, Hérodion, Narcisse, Rufus, Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas et Hermas, et enfin Néré. Donc on voit que dans les personnes aussi qui sont dans ces églises, il y a, comme disait Chantal, il y a tout un brassage de population. Il y a des gens qui sont d'origine juive, grecque, latine. Et on voit qu'il y a des hommes, il y a des femmes et il y a aussi des couples. Donc ça ressemble assez relativement aux personnes qu'on retrouve dans nos églises aujourd'hui. Ça ne va pas changer la face du monde, mais on pouvait quand même le noter. Et ce qui est important notamment, mais on y reviendra aussi quand on parlera de Paul et de ses amis et de son ministère, c'est que Paul cite beaucoup de femmes, et Paul a souvent été vu à tort comme quelqu'un d'assez misogyne, quelqu'un qui n'aurait pas aimé les femmes, qui aurait eu un problème avec les femmes, etc. Ma grand-mère maternelle, que j'aime énormément, et qui s'est convertie à la fin de sa vie, n'aimait pas du tout Paul, parce qu'elle disait que c'était un misogyne. Et elle le disait avec force. Mais on voit bien ici que Paul a une vraie affection pour aussi des femmes et qu'il n'a pas peur de dire que la mère d'un de ses frères dans la foi, il la considère comme sa propre mère. Donc c'est quand même intéressant de voir que Paul ne fait pas l'impasse en faisant semblant que les femmes, elles n'ont rien fait et il n'y a que les hommes qu'il faut remercier. Paul dit aussi que les femmes, elles ont joué un rôle important et il les salue au même titre que les hommes. Donc c'est quand même intéressant de le noter. Pour ce qui est de la diversité ethnique, comme a dit Chantal, il y a des gens qui sont d'origine plutôt juive, plutôt grecque, et il y a aussi des personnes qui sont d'origine plutôt latine. Hein. Rome, c'est en Italie, donc c'est logique. L'arrière-plan, ce n'est pas le même pour tous. On l'a vu avec les chapitres 14 et 15. On a vu que ça ne se passait pas toujours facilement parce qu'il y avait les croyants d'origine juive, il y avait les croyants d'origine non-juive. Donc on voit que dans l'église de Rome et dans l'église du 1er siècle, de manière un peu plus généralisée, y a un brassage de population, un brassage d'ethnie qui amène parfois des tensions et des difficultés comme celles que Paul a traitées au chapitre 14 et 15. Il y a une diversité sociale aussi. On voit qu'il y a des gens qui ont des maisons, des grandes maisons qui peuvent accueillir les gens. Et on voit qu'il y en a d'autres qui, du coup, se réunissent chez eux parce que peut-être ils n'ont pas assez, d'argent pour avoir une grande maison ou autre. Donc on voit qu'il y a une diversité, de classes sociales. Et on voit que ce qui me paraît bien aussi, c'est qu'on voit que ceux qui sont les plus riches et qui ont le plus de possibilités et de moyens n'hésitent pas à mettre ces possibilités et ces moyens au service de ceux qui peut-être en ont moins. L'Épître aux Corinthiens montre aussi... Paul dispute les Corinthiens à cause de ça parce que les plus riches et ceux qui étaient encore esclaves, ils ne pouvaient pas être en même temps à l'église. Du coup, Paul dispute les plus riches qui, eux, consomment déjà le repas à l'avance et qui boivent, etc. Et qui, du coup, quand les plus pauvres, les esclaves notamment, arrivent pour se joindre à eux, eux ont déjà trop bu et trop mangé et du coup, il n'y a pas d'unité et de communion profonde. Donc, on voit qu'il y a aussi, dans certaines églises, des esclaves qui font partie des chrétiens qui sont convertis. Pour ce qui est des juifs, il y a quelque chose d'intéressant à dire sur les croyants qui sont à Rome. Alors, on a noté, c'est l'histoire qui nous le dit, c'est pas la Bible elle-même qui nous le dit, mais l'histoire et les documents historiques qu'on possède de ces époques-là nous le disent, il y a la présence de Juifs à Rome dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça s'est accentué en 63 avant Jésus-Christ, parce que en 63, Pompée, qui était un empereur, il va faire la conquête de la Judée, là où il y a des Juifs, du coup, et il va ramener avec lui des prisonniers de guerre, donc des Juifs, auxquels il va rendre la liberté une fois qu'ils seront à Rome. Donc ces Juifs-là ne sont pas forcément retournés en Israël. Déjà, il fallait pouvoir, parce qu'il faut pouvoir prendre le bateau, etc. Donc on n'a pas forcément les moyens de rentrer dans son pays, même si on a été libéré. Et du coup, ces personnes juives se sont installées à Rome à partir de cette époque-là. En 49 après Jésus-Christ, il y a eu un empereur, l'empereur Claude, et lui, il n'aimait absolument pas les Juifs et il les a fait expulser de Rome. Et c'est possible que Priscille et Aquila aient fait partie de ces personnes qui se sont faites expulser de Rome par l'empereur Claude. Et il semble que quand Paul va rencontrer Priscille et Aquila à Corinthe, ben, il semble qu'ils soient déjà chrétiens. Par contre, bien entendu, l'empereur Claude, il n'est pas immortel. Il y a un moment où il n'était plus là. Et du coup, ça a aussi encore changé un peu le paysage romain. Et après 49, la présence juive, elle s'est faite florissante. Alors, soit c'est parce que Claude s'est assoupli dans sa politique. Et du coup, il a peut-être permis à ce que des Juifs reviennent, même s'il était toujours là. Soit les Juifs ont commencé à revenir après sa mort, qui était en 54 après Jésus-Christ. En tout cas, on voit qu'avant la venue de Jésus et après la venue de Jésus, il y a toujours eu des Juifs dans Rome et autour. Et du coup, ce n'est pas étonnant de retrouver aussi des croyants d'origine juive dans les croyants de l'Église de Rome. Et d'ailleurs, la présence juive, elle est plutôt bien attestée parce qu'il y avait beaucoup de synagogues à Rome à l'époque de Jésus. Et là, ça va être un peu du pif, hein, mais d'après vous, combien il y avait de synagogues à Rome ? Combien ? Oh, plus ? Ah, un tout petit peu plus qu'une dizaine. Il y en avait 11. Donc, il y avait quand même du monde juif en terre romaine, et c'est pas étonnant après que certains, en entendant la prédication de l'Évangile, se soient aussi tournés vers le Seigneur, vers Jésus-Christ, et qu'ensuite, ben, ils aient fait partie de ces croyants d'origine juive dans l'Église de Rome. Donc, il y avait une vraie présence juive en terre romaine. Et du coup, entre 49 et 54, donc entre le moment où l'empereur Claude a dit ben non, on ne veut plus des Juifs, on les expulse, et sa mort où les Juifs sont revenus, ben il y a eu beaucoup de chrétiens non juifs du coup qui étaient là, qui ont entendu la prédication de l'Évangile, qui se sont convertis, et du coup ensuite les croyants juifs, quand ils sont revenus après la mort de Claude ou soit quand il a assoupli sa politique, ben ils sont revenus, ils ont entendu l'Évangile et du coup ils se sont joints à ces communautés qui existaient mais qui n'étaient pas des communautés au départ juives. Ce qui peut expliquer aussi les difficultés que juifs et non-juifs avaient par rapport à la question de la viande et de certains jours. Mais on voit que tout n'est pas strict dans l'église de Rome, dans les communautés chrétiennes de Rome. Il y a beaucoup de choses différentes qui se font et il y a des croyants un peu de toutes origines. Et c'est vrai que les habitudes qui ont été prises par les non-juifs quand il n'y avait pas de juifs à Rome, ben peut-être que ça a été difficile pour les croyants d'origine juive de les embrasser et de s'y attacher eux-mêmes. Et le fait aussi que peut-être... si Paul a aussi repris les croyants qui n'avaient pas de problème avec le fait de manger de tout, ben c'est peut-être parce qu'eux, ils étaient tellement habitués à vivre comme ça, vu qu'avant, il n'y avait pas de juifs avec eux, ben, qu'eux, ils ne se sont peut-être pas rendus compte non plus que ça blessait leurs frères d'origine juive de pratiquer ces choses-là. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ben, l'Église de Rome, ben, tous ces groupes de croyants romains, ils sont voulus par Dieu. Mais ça montre aussi que ben, quand quelque chose est voulu par Dieu, ça ne nous épargne pas parfois quelques difficultés, parfois des petites, parfois des grandes. Mais on voit aussi que ben, le Seigneur travaille et qu'il utilise aussi sa parole, notamment au travers de Paul, ben, pour parler à tous ces groupes de chrétiens à Rome. Donc il ne faut pas non plus qu'on soit pris au dépourvu ou qu'on ait peur de quand il y a des différends dans l'Église, parce que c'est des choses qu'on apprend aussi à régler avec le Seigneur. Et on peut voir que ce n'est pas parce qu'il y a des différends que l'Église est en perdition ou autre, mais parfois il arrive qu'il y ait des étapes dans la vie d'une Église où il y a des conflits plus ou moins importants et qu'on peut aussi apprendre à les régler tous ensemble quand on a de l'amour les uns pour les autres et pour le Seigneur. Et il faut aussi savoir que sous Claude, alors vous allez devenir des spécialistes de l'empereur Claude à force, mais sous Claude, les Juifs, ils n'avaient pas non plus le droit de se rassembler. Et peut-être aussi que le fait pour les croyants d'origine juive de se rassembler avec des croyants d'origine non juive, c'était peut-être aussi un peu contre nature, parce qu'ils avaient tellement été habitués à ne pas avoir le droit de se rassembler, de ne pas exercer leur culte, que peut-être ça aussi était un peu difficile pour eux de se joindre à des communautés déjà existantes, parce qu'ils avaient encore tout ce bagage du fait qu'ils avaient été expulsés, ils n'avaient pas le droit de se rassembler. Et peut-être que pour eux, joindre une communauté de croyants, c'était finalement pas si évident que ça, même si pour nous, aujourd'hui, c'est facile, on passe la porte d'une église, et puis ça ne nous pose pas énormément de difficultés. Mais il faut bien comprendre que l'église du 1er, 2e, 3e siècle, ben, ce n'était pas toujours aussi évident. Et il faut aussi noter qu'à l'époque, l'église n'était pas spécialement forcément trop aimée, puisque la foi chrétienne était une foi qui n'était pas politiquement acceptable, on va dire. On pouvait être un citoyen romain et puis adorer des divinités, etc., et adorer César, et ça ne posait pas de problème. On pouvait être juif et vivre dans le judaïsme, ça ne posait pas trop de problème. Des fois, c'était un peu sur le fil du rasoir. Mais être chrétien, c'était un peu différent, parce qu'on refusait d'adorer, l'empereur, puisque le seul qu'on accepte d'adorer, c'est Dieu. Et en même temps, on ne fait pas partie de la religion déiste acceptée, qui est le judaïsme. Donc l'Église, bien qu'elle soit assez florissante, vu qu'il y a plusieurs communautés qui se retrouvent, ben, elle a aussi vécu des choses qui pouvaient parfois être difficiles parce qu'elle n'était pas forcément perçue et acceptée de tous. Et pour ce qui est aussi de répondre à la question que posait Alexandre tout à l'heure, est-ce qu'il y a une Église ou plusieurs, ben, on voit que Paul, dans le début de sa lettre, au verset 7, il ne va pas adresser sa lettre à juste l'Église de Rome comme s'il n'y avait qu'un seul rassemblement, mais il aurait pu le faire et que ce soit une lettre qui soit destinée à tous les groupes qui se rassemblaient. Mais il va parler de tous ceux à Rome qui sont bien aimés de Dieu. Donc ça aide aussi à comprendre le fait qu'il y avait sans doute plusieurs communautés qui se retrouvaient et qui étaient tous chrétiens et qui, tous ensemble, pouvaient aussi louer le Seigneur. Après, on a peu d'informations sur les liens qui pouvaient unir ou désunir les églises à cette époque-là. Mais en tout cas, Paul salue bien tous ceux qui, à Rome, sont bien aimés de Dieu. Donc il ne va pas forcément adresser ça juste à un seul groupe de croyants plus précis. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais là, je pouvais peu vous poser de questions, vu qu'il y avait peu de choses dans le texte. Oui? Ils ne se rassemblaient pas. Ils avaient interdiction de se rassembler. Et de toute façon, vu que Claude a fini par les chasser, le problème de leur rassemblement, il ne se posait plus à Rome, vu qu'il n'y avait plus de juifs à Rome. Mais c'était, ben, si tu veux, c'est un peu comme les églises dans les pays... je dirais comme l'Algérie ou enfin, par exemple les pays d'Afrique du Nord où être chrétien c'est pas accepté par la loi, ben, de toute façon c'était fermé, donc ils n'avaient pas le droit de se rassembler et de se voir. Alors peut-être que certains ont trouvé des stratagèmes et se sont retrouvés en petits groupes dans des maisons ou autres, mais en tout cas il n'y avait pas de droit de rassemblement officiel, et vu qu'après de façon Claude les a fait partir, il les a chassés, il les a exilés hein, finalement d'une certaine manière hors de Rome. J'imagine que hors de Rome, ensuite, ils ont pu retrouver des synagogues où ils ont recréé eux-mêmes des lieux où ils pouvaient se rassembler. Mais en tout cas, à Rome, c'était totalement interdit pour eux de se rassembler. Peut-être, ou peut-être qu'il les a simplement laissés, parce qu'il y a quand même eu des synagogues à Rome. Il y en avait 11, notamment, donc il ne les a pas forcément détruites, mais je pense qu'il les a fait fermer. Et puis, elles ont servi, entre guillemets, à rien. Vu qu'après, quand ils sont revenus, je pense qu'ils ont réutilisé les synagogues qui étaient déjà là et ils n'en ont pas forcément reconstruite, à mon avis. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah, pardon, oui. Oui. Non. Alors, pour ce qui est du pasteur, Chantal n'est pas pasteur. Elle est, c'est une appellation typique de notre union d'église, elle est assistante de paroisse, c'est-à-dire qu'elle m'aide et elle aide aussi à la vie de l'assemblée. Alors pour briser une image très populaire, Chantal ne me fait pas de café et elle ne s'occupe pas de préparer le salon quand j'ai des rendez-vous, je le fais moi-même. Mais elle fait bien plus d'autres choses qui sont bien plus importantes que de me préparer du café ou de faire un gâteau quand j'ai des réunions. Et je le dis parce que des fois, on s'imagine que la femme du pasteur, elle fait toutes les tâches pour que son mari puisse librement réfléchir à la parole, mais je pense qu'on est, on essaye d'avoir un partage de tâches qui soit équitable. Et quand c'est Chantal qui a des choses à préparer pour la réunion des femmes, par exemple, ou autre, ben, c'est moi qui la décharge au niveau de Zoé et vice-versa. Mais Chantal ne porte pas le titre de pasteur. Et pour ce qui est des apôtres, la Bible n'en parle pas, de manière directe des épouses des apôtres, mais il me semble quand même que les femmes des apôtres n'étaient pas qualifiées elles-mêmes d'apôtres parce que Dieu, Jésus a choisi de manière directe les hommes en tant que tels et pas l'homme et sa femme avec. Alors ça ne veut pas dire que les femmes elles n'ont pas de place dans l'Église ou qu'elles ne peuvent rien faire ou que ces femmes-là elles n'avaient pas... une certaine influence dans le ministère de leur mari. Hein. On considère que Pierre était sûrement marié et j'imagine que sa femme, quand son mari partait faire des prédications entre guillemets en plein air, elle n'était pas à se tourner les pouces. À mon avis, elle devait prier très fort pour son mari parce qu'elle savait aussi les risques qu'il encourait. Mais la Bible est assez silencieuse sur ces questions-là. Mais il me semble quand même que le fait que Jésus ait choisi directement les hommes de façon directe, même quand il y a eu le tirage au sort du 12e apôtre avant la Pentecôte, les apôtres disent bien ben, « Seigneur, on tire au sort, mais on s'en remet à toi pour que le sort il montre ce que toi t'as choisi. » Donc il choisissait bien des hommes, des êtres humains précis qui ont été choisis et pas un homme ou une femme ensemble, en tout cas pour les titres. Très bien. Ben, si jamais, après, il y a une question qui revient, même si on n'est plus dans cette partie, vous pouvez quand même la poser. Et je vous propose qu'on passe au deuxième point, qui était Paul, son ministère et ses amis. Je vais quand même jeter un coup d'œil à l'heure. Et du coup, j'ai pris quelques personnages qui semblent être, entre guillemets, un peu plus importants pour Paul dans son ministère. Et la première personne dont on parle, et dont Paul parle, et c'est avec ça que commence le chapitre 16, c'est qu'il dit « Je vous recommande notre sœur Phébé, diaconesse de l'église qui est à Sancré, j'arrive jamais à dire ce nom, désolé, réservez-lui en vertu de votre union commune au Seigneur l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de moi, en faveur de beaucoup, et en particulier pour moi. » Donc, Paul commence, et je pense que ça casse aussi peut-être son image faussement misogyne, Paul va commencer ses salutations par une femme qui est Phébé. Et qu'est-ce qu'on apprend sur cette femme ? Elle est diacre, oui, diaconesse, on peut dire. C'est la féminisation du mot diacre, effectivement, oui. D'ailleurs, c'est sans doute elle qui a apporté la lettre aux chrétiens à Rome, puisque Paul leur dit, ben, quand elle sera chez vous, si elle a besoin de quelque chose, mettez-vous à sa disposition. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur elle ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oui. Effectivement, elle a fait beaucoup de choses. Alors, on ne nous dit pas exactement toutes les choses qu'elle a faites, mais Paul dit qu'effectivement, elle est intervenue en faveur de beaucoup de personnes. Et Paul, il dit, elle est intervenue en faveur de qui, notamment ? Voilà. Il dit, elle est intervenue notamment en ma faveur. Donc, pour quelqu'un qu'on pourrait peut-être des fois trouver misogyne, il n'a pas peur de dire, j'ai eu besoin de l'aide d'une femme et cette femme m'a apporté son aide. Donc, je pense que si jamais certains d'entre nous ont pensé encore que Paul est misogyne, ben, je pense qu'on peut laisser ses suspicions... inexact, assez loin. Et on peut tout simplement reconnaître que Paul reconnaît pleinement ce que les femmes ont fait pour lui. Et du coup, Paul, il dit, ben, à cause de qui elle est et de ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle mérite ? De la reconnaissance, effectivement, oui. De l'aide, oui. Pardon, j'ai entendu... Voilà, de lui faire bon accueil, effectivement. Et qu'est-ce que Paul met comme raison, en plus du fait qu'elle était active pour plusieurs personnes, qu'est-ce que Paul met comme raison, encore peut-être même plus importante que ça, au fait qu'il faut lui faire bon accueil et la reconnaître à sa juste valeur ? Exactement. Elle appartient au Seigneur. Et il dit « Réservez-lui en vertu de votre union commune au Seigneur ». Donc Paul, il dit bien « C'est parce qu'on est frères et sœurs que je vais vous dire toutes ces choses. C'est pas juste parce qu'elle a fait des choses bien ». Ce qu'elle a fait de bien, ça compte. Mais Paul, il dit, c'est parce que ben, on est frères et sœurs, et comme on est frères et sœurs, ben, vous êtes appelés à l'accueillir comme votre sœur. Vous êtes appelés à lui faire bon accueil. Et il dit même, c'est intéressant, parce qu'il dit, en vertu de votre union commune au Seigneur, l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Paul, il dit pas vraiment, c'est optionnel de bien l'accueillir. Paul, il dit, vous lui devez ça, parce que c'est votre sœur. c'est votre sœur dans le Seigneur et du coup, vous lui devez de bien l'accueillir. C'est pas genre vous l'accueillez bien si vous avez envie ou si vous vous entendez bien avec elle. Vous êtes frère et sœur et du coup, vous devez bien l'accueillir. Parce que c'est une question d'hospitalité. Alors, je sais pas, j'espère que quand vous allez chez vos frères ou vos sœurs, vous êtes bien accueillis. Parce que si vous êtes mal accueillis, vous n'allez pas forcément faire l'analogie avec la famille naturelle. Mais quand on va chez nos frères ou nos sœurs, ben, si on est invité pour un anniversaire ou un repas, on s'attend à être bien accueillis. On ne s'attend pas à être mal accueillis avec des plats froids, mal cuits ou je sais pas, des trucs juste sortis du congélateur 10 minutes avant. Mais Paul dit, on fait partie de la même famille spirituelle et du coup, ben, elle mérite un accueil qui soit à la hauteur de cette union qu'on a grâce à Christ. Et du coup, effectivement, Paul, il demande que les chrétiens de Rome, ils se mettent à sa disposition. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Et Paul montre aussi qu'ici, il y a une reconnaissance dans le service au Seigneur. Alors c'est vrai, il faut apprendre à être serviteurs les uns des autres et à se faire plus petit que celui qu'on sert. Mais Paul ne dit pas non plus que ça veut dire qu'on est appelé à se faire marcher sur les pieds et que ben, les gens font ce qu'ils veulent de nous finalement. Paul y montre aussi que quand on a servi le Seigneur fidèlement, quand on a œuvré pour les frères et les sœurs, eh ben, on a le droit d'attendre un retour de leur part. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit faire les choses de manière intéressée. Je fais très 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 bien les choses comme ça, les autres seront obligés de très 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 bien m'accueillir. Mais Paul il dit, ben, quand on sert le Seigneur est juste aussi pour nous bénir au travers des frères et des sœurs. Et je pense que c'est important pour nous hein, de se souvenir de ça, de se souvenir que ben, les frères et les sœurs qui sont en face de nous, on doit les accueillir parce que ce sont nos frères et nos sœurs et que ben, s'ils ont fait des choses pour nous, c'est aussi normal que si on peut, on leur rende l'appareil. Alors bien sûr, il ne faut pas faire les choses dans l'espoir de recevoir en retour, mais il ne faut pas être gêné non plus quand les autres veulent nous bénir parce qu'on n'est pas des, entre guillemets, on ne vole pas les bénédictions de quelqu'un d'autre. Si le Seigneur veut nous bénir au travers de tel frère ou de telle sœur, ben qu'on puisse être reconnaissant au Seigneur parce qu'il le fait, mais qu'on ne soit pas non plus gêné. Et sans doute que cette Phébé, elle ne s'attend pas à ce que Paul fasse des éloges sur elle. Mais Paul le dit parce que ben, c'est la vérité. Et il n'y a pas besoin de cacher ce qui est de la vérité. Paul va citer ensuite un couple, et il va citer Priscille et Aquilas, et voilà ce qu'il va dire sur eux. « Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas le seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. » Du coup, c'est un couple de l'église qui est à Rome. Et qu'est-ce que Paul dit sur ces personnes ? Qui y sont et qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui ? Ouais, ils ont été compagnons de son ministère, effectivement, des collaborateurs. Ouais, ils ont risqué leur vie pour Paul. Paul dit, ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Donc Paul, il dit, il y a un moment dans ma vie où il y a eu un vrai problème, où ma vie était en danger. Ben eux, ce couple, ils n'ont pas hésité à risquer leur propre vie, à mettre leur vie en danger pour que la mienne, elle puisse être sauvée. Alors, nous, aujourd'hui, dans un contexte de quand même de paix religieuse et tout ça assez relative, on n'a jamais eu besoin de mettre notre vie en danger pour sauver celle de quelqu'un. Si un jour la persécution vient à frapper à notre porte d'une manière peut-être un peu plus pratique, ben peut-être qu'un jour, l'un ou l'autre, on aura besoin de risquer notre vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre. Et Paul dit, c'est ce qu'eux, ils ont fait. Ils ont risqué leur vie pour sauver celle de Paul. Alors c'est peut-être lors de l'émeute qu'il y a eu à Éphèse, qui est racontée notamment en Acte 19, où l'évangile est prêché, et du coup les gens d'Éphèse ils se rebellent, et du coup ça fait des émeutes, ça fait des manifestations entre ceux qui croient au Seigneur et puis ceux qui sont contre l'évangile. Et c'était quand même très 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 animé, c'était pas juste des petites manifestations toutes bêtes ou autres, il y avait vraiment un vrai risque, un vrai problème, et c'est peut-être à ce moment-là que Priscille et Aquilas ont aidé Paul et sont venus à son secours. En tout cas, ils ont été prêts à mettre leur vie en danger pour Paul. Et en quoi est-ce que ça concerne les églises des pays païens ? Parce que Paul, il va dire, je ne suis pas le seul à leur en devoir gratitude, c'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Alors pourquoi est-ce que les églises des pays païens, elles devraient être reconnaissantes à Priscille et Aquilas d'avoir sauvé Paul ? Exactement. Alexandre disait, ils doivent reconnaissance, ces églises païennes doivent, des pays païens doivent reconnaissance, parce que finalement, c'est Paul qui est allé dans tous ces pays pour leur prêcher l'évangile. Et si Paul était mort à Éphèse, est-ce qu'ils auraient entendu l'évangile ? Alors bien sûr, le Seigneur aurait pu susciter quelqu'un d'autre et envoyer quelqu'un d'autre. Mais Paul, il dit, toutes ces églises des pays païens, elles doivent être reconnaissantes aussi à Priscille et Aquilas parce que grâce au fait qu'ils ont sauvé ma vie, j'ai pu aller là-bas, j'ai pu leur annoncer l'évangile, ils ont pu se convertir et rencontrer Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc ce qui s'est passé de manière très locale, sans doute à Éphèse, quand Priscille et Aquilas ont sauvé la vie de Paul, ça a eu une répercussion qui allait bien au-delà d'Éphèse et qui allait dans toutes les contrées autour où Paul a pu aller pour annoncer l'évangile. Donc Paul, il dit, toutes ces églises dans les pays païens, elles doivent aussi remercier Priscille et Aquilas parce que sans eux, peut-être qu'ils ne se seraient jamais convertis et qu'ils n'auraient jamais entendu l'évangile. Et une autre chose qui est dite encore sur eux, c'est qu'ils accueillent effectivement l'église dans leur propre maison. C'est une chose importante parce que ça demande quand même une consécration au Seigneur. Dans une situation où ce qu'on appelle nous aujourd'hui le christianisme n'est pas forcément quelque chose de favorable vis-à-vis de son gouvernement, accueillir l'église chez soi, c'est aussi prendre des risques. Et c'est aussi être prêt à ce que peut-être on t'expulse, on t'excommunie, on t'envoie mourir, peut-être on t'envoie aux galères ou on t'exile. Et du coup, Paul remercie Priscille et Aquilas pour ce qu'ils ont fait et il dit de saluer tous les chrétiens qui sont chez eux. Ensuite, Paul va parler au verset 7, c'est un petit peu plus loin. Il va parler de Andronicus et de Junia. Et Paul va dire ceci. « Saluez Andronicus et Junia qui sont du même peuple que moi, donc ils sont juifs aussi. Ils ont été mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés en tant qu'apôtres, eux qui se sont même convertis au Christ avant moi. » Alors qu'est-ce qu'on apprend sur Andronicus et Junia ? C'est des juifs. Alors peut-être dans certaines traductions, parce que j'ai utilisé plusieurs traductions pour préparer, et certains, Paul dit, ce sont mes parents. Alors il faut comprendre que c'est ses parents au sens ethnique, pas ses parents au sens de la chair. Donc c'est pas vraiment son papa et sa maman. Effectivement, ils sont juifs. Quoi d'autre encore ? Ouais, ils ont... c'est bizarre à dire comme ça, mais ouais, ils ont fait de la prison ensemble, quoi. Ils étaient captifs à cause de leur foi ensemble. Donc j'imagine aussi que si Paul les cite, c'est que tout comme Priscille et Aquilas et Phébé aussi, ils ont dû vivre des choses ensemble qui étaient des choses très dures. Et ça les a aussi soudés et unis dans la foi de traverser ces épreuves ensemble. Et la prison à l'époque de Paul, alors je ne dis pas que la prison aujourd'hui c'est rigolo, mais il n'y a pas des vraies toilettes, il n'y a pas une douche, il n'y a pas une bibliothèque avec des bouquins, il n'y a pas une couchette, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas Canal Plus pour regarder le foot le dimanche soir et tout. Ça c'est la prison aujourd'hui, plus ou moins. Bien sûr, je grossis le trait, mais la prison à l'époque, c'est quelque chose de terrible. Et du coup, Paul s'est vraiment lié d'amitié avec Andronicus et Junia aussi au travers des épreuves qu'ils ont traversées ensemble. Et ça montre aussi que nous, on peut aussi vraiment, je dirais, gagner en amitié quand on traverse des épreuves avec les personnes qui sont autour de nous. Et c'est souvent quand il y a des épreuves, quand il y a des difficultés, etc., que finalement les liens aussi se renforcent parce qu'on est plus vulnérable ou alors les personnes en face sont plus vulnérables. Et soit on prend plus, entre guillemets, soin des gens, soit les gens vont prendre plus soin de nous. Et c'est vrai que les épreuves peuvent aussi être synonyme de bénédiction parce que ça peut nous aider à être plus proches des autres après et on peut vraiment apprendre à mieux se connaître et à mieux s'aimer en étant ensemble. Qu'est-ce que Paul dit encore sur eux ? Oui, pardon. Oui. C'est pas explicitement documenté. C'est pas directement. C'est pas les maris dont on a l'habitude dans les évangiles, parce que cette Marie-là, elle est à Rome. Mais une chose que Paul dit, sans être très explicite, mais il n'est pas très explicite sans doute aussi parce que les gens à Rome, ils la connaissent. C'est comme si moi j'écrivais pour vous et que je dise saluez Lydie. On ne saurait pas qui c'est, mais les gens qui sont ici savent que c'est toi. Tu vois ? Donc Paul ne documente pas plus non plus parce qu'il n'a pas pensé à tous les gens après qui allaient lire ses lettres en mettant toutes les notes nécessaires pour que tout le monde comprenne tout. Mais par contre, ce qui est intéressant pour cette Marie, c'est que Paul cite aussi qu'elle s'est beaucoup dépensée pour les chrétiens de Rome. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut noter sur elle. Du coup, Andronicus et Junia, il n'y a pas un truc quand même qui... Voilà, merci quand même. Et tu disais, Rebecca, je vais revenir sur ça. D'accord. Oui, c'est des gens qui ont effectivement rencontré le Seigneur avant Paul Et c'est intéressant parce que Paul, en général, il est à l'initiative de la conversion de beaucoup de personnes parce que le Saint-Esprit l'a beaucoup utilisé. Mais Paul, il dit aussi, ben là, ça, c'est des gens qui étaient chrétiens avant moi. Et je trouve ça bien aussi que Paul parle de ces gens qui ont rencontré le Seigneur avant que lui-même l'ait connu. Et effectivement, Axel disait quelque chose qui est important, c'est qu'il parlait des apôtres. Il est dit, ils sont estimés en tant qu'apôtres, eux qui se sont même convertis à Christ avant moi. Alors comment est-ce que vous comprenez cette idée d'apôtre ici? Oui. Oui, effectivement. Il y a d'autres personnes dans le Nouveau Testament, comme dit Axel, qui sont citées comme étant des apôtres. Alors, il y a un ministère apostolique particulier des 12 et de Paul. Et il y a des personnes qui sont aussi citées comme étant des apôtres. Alors, selon la traduction, soit vous avez qu'ils étaient effectivement des apôtres remarquables, ou alors qu'ils étaient très estimés par les apôtres, parce qu'ils travaillaient en lien et en relation, comme le disait aussi Axel, avec les apôtres. Oui, donc ça peut vouloir dire aussi qu'au sein des 12 et de Paul, il y avait des gens effectivement qui travaillaient très proche d'eux, qui étaient envoyés aussi souvent par les églises pour communiquer des choses, des fois amener des lettres, peut-être aussi il y a des fois des collectes qui étaient amenées d'une église à l'autre par ces personnes-là parce qu'elles étaient très estimées et on leur faisait confiance. Oui. Il s'estimait comme un des... En fait, il ne s'estimait pas comme un... Enfin, il se considère avec le même ministère apostolique que les 12, mais venu après. Et c'est vrai que les 12 ont quand même un ministère qui est assez dirigé vers les juifs, et on voit que Paul a un ministère un peu particulier aussi, parce qu'il est plus dirigé vers ceux qui sont non-juifs. Mais il est dans sa fonction, il est exactement apôtre comme les 12, mais Dieu l'a choisi d'une manière plus spécifique pour être l'apôtre des païens, finalement. Oui. 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 Oui, dans les 12 épaules. Si. Dans le ministère apostolique des 12 et de Paul, il y a une dimension importante, c'est qu'ils ont tous reçu l'enseignement de la part de Jésus-Christ directement. Ils ont tous été témoins du fait que Jésus est ressuscité, alors pas forcément à la résurrection même, mais Jésus est apparu à Paul. Donc c'est une preuve que, j'allais dire, Paul est ressuscité, que Jésus est ressuscité. Mais effectivement, il y a une différence entre le ministère apostolique des 12 et de Paul et le fait que des personnes comme ça puissent être nommées apôtres. Et c'est un titre qu'on retrouve dans Actes 14, verset 4, verset 14 aussi, Galates 1, 19, 2, 9, etc., et qui est utilisé d'une manière plus générale pour parler des gens de confiance que les églises pouvaient envoyer auprès d'autres églises pour communiquer des choses, pour amener éventuellement une collecte, pour entretenir aussi des relations. Donc c'est un petit peu, alors c'est très grossier de caricaturer comme ça, mais c'est un petit peu finalement un peu comme les gens qui sont dans le conseil d'église, à qui on confie des tâches peut-être un peu plus... spécifiques et dans lesquels on a aussi beaucoup de confiance pour la conduite de l'Église. Mais ils ne sont pas apôtres au même titre que les 12 et que Paul. Parce qu'eux, ils ont un ministère bien, bien précis, bien nommé, et ils ont été choisis d'une manière bien particulière par Dieu. Paul note aussi, sur la question du ministère apostolique, faudrait qu'on peut une fois faire une étude en entier sur ça, parce que juste décortiquer ce que c'est un apôtre au sens biblique, ça prend plus que les 2 minutes que j'ai dites. Et je ne veux pas semer de confusion non plus en allant trop loin et en ne pouvant pas tout expliquer, mais ça pourrait, vu qu'on va finir Romains, ça pourrait être un thème d'étude si on en a envie. Donc, en plus de ces personnes-là, Paul va aussi dire qu'il a un attachement tout particulier pour Perside, au verset 12, et pour la mère de Rufus, au verset 13. Et il dit même de la maman de Rufus, il dit « Saluez Rufus, cet homme que le Seigneur a choisi et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. » Donc là, Paul va très loin dans l'affection qu'il porte à ces personnes, puisqu'il dit la mère de Rufus, finalement, c'est pas ma mère biologique, mais elle a été pour moi comme une mère. Et du coup, on voit aussi là tout l'amour et l'affection que Paul porte à cette femme. Et on voit ici que, alors on pourrait citer d'autres personnes, mais j'ai essayé de choisir celles dont Paul dit le plus de choses et qui semblaient les plus proches de lui. On voit ici que Paul, il a une grande affection pour les chrétiens qui sont à Rome, notamment ceux qui sont cités et pour lesquels on a un peu plus parlé. Et on voit qu'il y a certaines personnes avec qui il a vécu vraiment des choses profondes. Sa vie a été sauvée pour certains, il a été en prison avec d'autres. Donc il y a des choses très fortes qu'il a vécues avec lui. On voit que Paul, il a un attachement qui est sincère et qui est profond envers les femmes, parce qu'il commence ses salutations par une femme. Il dit que la mère de Rufus, il la considère comme sa mère. Il parle d'autres femmes encore à d'autres endroits. Et du coup, effectivement, ben, je crois qu'on peut être tout à fait en paix avec ce que Paul dit dans les Épîtres, notamment à Timothée ou dans les Corinthiens, où Paul dit des choses sur les femmes qui peuvent paraître dures, et où on pourrait se dire, mais Paul, il n'aime pas les femmes. Ben, c'est pas ça, c'est pas vrai, parce que Paul a beaucoup d'affection pour beaucoup de femmes, et on le voit ici. Et du coup, ben, les choses que Paul dit dans les lettres à Timothée ou aux Corinthiens, ben, il faut les comprendre de la bonne manière, dans leur contexte, et pas simplement dire, ben, Paul, il déteste les femmes, et puis voilà quoi. Une femme a ruiné sa vie, et puis c'est terminé. Parce que non, on n'en sait rien, et dire ce genre de choses-là, ça n'amène pas grand-chose d'utile pour notre vie. Alors que de voir que Paul sait à la fois apprécier les hommes et les femmes dans son ministère, eh ben, ça peut aussi nous aider, nous, dans notre vie chrétienne et dans les ministères qu'on a, ça peut nous aider à apprécier tout le monde. Les femmes, les hommes, ceux qui peut-être des fois on a peut-être moins de facilité avec eux, mais qui sont aussi là et qui sont bénéfiques pour notre ministère, et aussi ceux avec qui on a des grandes affinités et avec qui on a vécu des belles choses. Et on voit que Paul aussi, il met toujours en avant ce que les autres ont fait pour lui. Paul a fait beaucoup de choses pour les gens. Il en parle parfois un petit peu, mais c'est juste, voilà, on va dire, un peu des extraits de ce qu'il a fait pour les uns, où il dit, oh ben, rappelez-vous telle chose ou rappelez-vous telle autre chose. Et du coup, là, on voit que Paul, cet attachement sincère qu'il a pour les gens, ben, il le montre en rappelant ce qu'ils ont fait, ce que ces personnes ont fait pour lui, et il montre qu'il n'a pas oublié l'action des autres pour lui. Et bah, Chantal disait avec les groupes des femmes, l'idée c'était un peu de faire quelque chose de pratique, de se donner entièrement de manière pratique à une personne pour faire quelque chose comme Jésus s'est donné entièrement pour nous. Et je crois que Paul, lui, il reconnaît bien ici qu'il y a des gens qui se sont vraiment aussi donnés entièrement pour lui, pour l'aider, pour le sauver, le secourir. Et je crois que ça peut aussi nous aider à regarder les gens autour de nous et à dire merci au Seigneur pour ces gens, mais aussi à aller leur dire merci à eux directement, pour les choses qu'ils ont faites, pour la manière dont ils nous ont soutenus, la manière dont ils ont peut-être été utiles dans notre ministère, ou la manière dont ils nous ont peut-être encouragés dans notre vie chrétienne, des choses comme ça, la façon dont ils ont peut-être été là aussi quand on était dans la difficulté. Et je pense que c'est important de se rappeler de la foi de nos aînés, de ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont été là avant nous, qui sont peut-être encore toujours là, mais qui ont commencé avant nous, et qu'on puisse vraiment apprendre à être reconnaissant pour tous ces gens-là que le Seigneur nous donne, parce que c'est une vraie richesse. Hein, Paul, il dit, mais s'ils n'avaient pas été là, vous, les églises, peut-être que vous n'existeriez pas, parce que je serais peut-être mort. Du coup, remerciez ces personnes qui sont là, parce que Dieu les a vraiment donnés pour quelque chose de beau et quelque chose de très important. On va s'arrêter là. On verra les deux prochains points le dimanche 8, du coup. Qui sont, ce seront des points un peu plus théologiques. Là, c'était un peu plus cool et tout, on raconte un peu de l'histoire, etc. Mais après, on va rentrer dans les points un peu plus théologiques, notamment sur les divisions qui peuvent venir dans l'Église et sur la doxologie, sur la gloire qui est rendue à Dieu par Paul à la fin. Il y a juste une chose que je veux noter pour vous et qui vous a peut-être étonné, c'est qu'au verset 22, il est dit « Moi, Tertius, qui écris cette lettre, j'ajoute mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. » Alors là, vous êtes peut-être dit, mais attends, c'est qui écrit ? C'est Paul ou c'est Tertius ? Il faut se mettre d'accord. Ben, en fait, Paul, alors on sait que Paul avait déjà des difficultés sans doute de vision, parce qu'il dit, si je me trompe pas, je crois que c'est aux Galates, vous étiez prêt à vous arracher les yeux pour me les donner. Donc il avait sans doute des problèmes de vision, peut-être parce qu'il avait été, comment on dit ? Quand on lance des pierres sur les gens. Lapidé, merci. Et il avait peut-être perdu une grande partie de sa vision à ce moment-là. Et du coup, et c'était de toute façon une pratique assez répandue à cette époque-là, il avait quelqu'un qui écrivait pour lui. Et du coup, là, c'est Tertius qui écrit, qui est chrétien aussi, et qui, lui, en profite, du coup, pour ajouter ses salutations et pour dire, ben, moi qui écris, pas dans le sens, l'idée vient de moi, mais dans le sens, c'est moi qui couche sur le papier les pensées, ben, moi aussi, je vous salue. Donc, c'était pour pas que vous partiez peut-être avec des questions sur ça, mais c'est assez classique d'avoir... de voir des personnes qui écrivent. Oui ? Non, il a tout écrit. Tout, du début à la fin. C'était, si tu veux, le secrétaire de Paul. Tout romain. Toute l'épître aux Romains du chapitre 1 jusqu'à la fin, c'est Tertius qui a tout écrit sous la dictée de Paul. Voilà, donc Paul parlait ou dictait, je ne sais pas trop comment ça allait, parce qu'il faut suivre le rythme. Et Tertius a noté ces choses-là. Et puis, il y a certains endroits où Paul, quand il écrit des lettres, à un moment, il dit « Ah, vous voyez bien ces grandes lettres, vous reconnaissez que c'est bien moi qui ai signé. » Parce que comme il avait sans doute des problèmes de vue, ben, il ne pouvait pas écrire tout petit, donc il perdait aussi un peu la notion de la taille des lettres qu'il écrivait. Donc Tertius était simplement un secrétaire pour Paul, que ça ne vous trouble pas. Et un tout dernier commentaire en forme un peu humoristique pour terminer. Au verset 21, il est parlé de Timothée, de Lucius, de Jason et de Sosipater. Alors par pitié, n'appelez jamais Jason Jason. Il n'est pas américain. Mais parce que des fois ça arrive, ou même Job, on l'appelle Job, mais non. Ils ne sont pas des personnages américains, et même si Jason, ce n'est pas forcément très joli, et ben c'est comme ça qu'on le dit, et du coup, ben ça vous évitera quand même sans doute quelques rires si un jour vous lisez ce prénom devant toute une église. Donc on dit bien Jason et pas Jason. Voilà. Sur ce, je vais juste prier pour conclure, et on continuera du coup dans deux dimanches. Père éternel, on veut vraiment te dire merci pour ce que tu nous montres ici dans cette épître de Paul, dans les salutations que Paul va émettre. Merci pour tous ces groupes de chrétiens qui se retrouvaient. Merci pour ceux qui ouvraient leur maison, qui donnaient de leur temps et qui donnaient de leurs moyens pour ton Église. Merci parce qu'on a ces témoignages aussi de toutes ces personnes qui ont aidé Paul. Et ça nous pousse à la fois à être reconnaissants, parce que si Paul n'avait pas survécu, on n'aurait pas vu tous ces écrits non plus pour nous. Et en même temps, ça nous pousse aussi à être reconnaissants parce que autour de nous aussi, il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont encouragés, qui ont pris soin de nous. Et je te prie vraiment pour qu'on puisse remercier ces personnes, qu'on puisse penser à elles, qu'on puisse vraiment réfléchir et qu'on puisse leur dire merci et qu'on puisse prier pour elles aussi et être aussi disponible pour elles si elles en ont besoin. Et tu vois aussi, Père, pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de nous d'une façon ou d'une autre, pour des choses pratiques ou pour la prière ou autre, et que tu nous aides à être aussi vraiment disponible pour eux, pour que si un jour quelqu'un écrivait une lettre et parlait de nous, et ce soit des choses positives et qui encouragent les frères et sœurs qui soient dites et pas des choses négatives ou qui seraient d'un mauvais témoignage envers toi. Je remets tout cela entre tes mains. Je te prie de bénir le reste de cette journée et toute notre semaine. Amen. Merci pour votre participation. Et la prochaine fois, promis, vous aurez beaucoup.